Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Île-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat, et ainsi retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 24 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org, et vous y retrouvez d'ores et déjà une page web consacrée à cette émission, avec les références qui seront citées, et la page sera mise à jour après, évidemment, l'émission si besoin. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas donc à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, ou même à nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique d'Isabella Vanni, Le Libre fait sa com. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur OpenStreetMap, un projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographiques libres du monde, avec Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. En fin d'émission, nous aurons un échange avec Laurent Costi pour présenter le logiciel Beneva Libre. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors, on va commencer comme d'habitude par un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission et vous pouvez proposer des réponses évidemment sur le salon web de la radio, sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen de nous contacter. Alors, première question. Lors de l'émission du 17 septembre 2019, nous avons parlé d'un concours pour lequel il est encore possible de participer jusqu'au 30 septembre 2019. Quel est ce concours ? Deuxième question. Quel est le nom d'un célèbre noyau de système d'exploitation libre, sans doute le plus connu, et d'où vient son nom ? Tout de suite, place au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent des événements. Donner la parole à des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre. C'est la chronique de Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella.
Bonjour à tout le monde.
Alors la chronique du jour est consacrée à Montpel Libre, un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région Montpellier. Je te laisse la parole.
Merci Fred. Donc pour la chronique Le Libre fait sa com d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pascal Arnoux et Myriam Criquet de l'association Montpel Libre. Donc Montpel Libre, comme tu l'as rappelé, comme on l'a rappelé plein de fois dans notre émission, est un GUL, donc l'acronyme de groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Et nous avons déjà eu l'opportunité de parler de GUL à plusieurs reprises. Et pour plus de rapidité, du coup, nous allons utiliser le terme GUL pendant toute cette chronique. Donc le GUL Montpel Libre est connu pour être très très actif. Et donc, nous verrons mieux avec nos invités comment, quelles sont les actions qui sont mises en place. Bonjour Pascal, bonjour Myriam.
Bonjour Isabella.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Salut Isabella, oui, très bien, pour éclair.
Super.
Est-ce que vous nous entendez bien ?
C'est parfait.
C'est parfait.
Bon, ça résonne un peu, mais bon.
C'est le téléphone. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord.
Merci à vous.
Est-ce que je pouvais déjà préciser votre rôle dans l'association Montpel Libre ?
Alors moi, Pascal Arnoux, je suis président et créateur de l'association Montpel Libre, qui va avoir bientôt 11 ans et qui a environ 13 ans d'existence. Voilà.
Et moi, je suis secrétaire générale de l'association Montpel Libre. Je suis aussi chargée de son développement et sa référente droit et management.
D'accord, merci. Donc l'association, comme tu disais, existe déjà depuis plusieurs années. Quelle est la raison pour laquelle elle a été fondée et quelle est la mission qu'elle se donne ? N'importe qui peut.
La raison pour laquelle elle a été fondée, en fait, c'est simple, hein, c'est faire la promotion du logiciel libre. Plusieurs fois, on a organisé sur l'Université de Montpellier des événements avec des acteurs du livre. Alors, ça a été la FUL, ça a été Ubuntu, ça a été enfin plein d'acteurs, BSD même, pas forcément Linux et le logiciel libre. Et après, les gens nous ont dit, c'est bien les événements que vous menez, donc c'était des salons, mais au quotidien, on aimerait avoir affaire à une association ou un GUL. Du coup, on a monté un GUL qui fait la promotion du logiciel libre. Donc ça, c'est l'émission de la culture libre et des biens communs.
Très bien, parce qu'effectivement, oui, je t'en prie.
Par la notion de culture libre, on a un regard particulier sur la culture libre. Ça n'est pas que la culture réalisée grâce à des logiciels libres, par exemple la musique libre. Mais c'est surtout la culture, c'est aussi la culture du libre. La façon dont on se comporte dans nos communautés, la façon dont on anime des équipes et le droit qui va avec.
C'est très clair.
Tout ça, ça s'incarne sur des biens communs.
C'est très clair, effectivement. Donc, ce n'est pas que le logiciel libre, c'est le libre en général. Et comme vous disiez, les GUL font la promotion du logiciel libre ou du libre, et du libre en général. Ça fait partie de leur but, mais un but très important, c'est aussi celui d'accompagner les personnes qui souhaitent s'initier au logiciel libre, parce que groupe d'utilisateurs, utilisatrices, comme le suggère la parole, ça veut dire que c'est des gens qui se rassemblent parce qu'ils utilisent les systèmes d'exploitation libre, les logiciels, mais le but, c'est de faire découvrir le libre à de nouvelles personnes et du coup de les aider à installer, à utiliser les programmes, à se familiariser avec les différents outils. Et du coup, le GUL promeut le logiciel libre, mais ça peut être très intéressant pour un GUL de proposer des événements récurrents pour que les personnes puissent avoir un point de référence. Ils savent qu'un certain jour dans le mois, ils peuvent aller voir des personnes qui peuvent les aider. Et du coup, j'ai vu que vous avez beaucoup de permanence, justement, d'événements récurrents. Vous voulez préciser lequel ?
Alors, effectivement, on fait la promotion du logiciel libre. On fait aussi la promotion de Linux, qui est un logiciel libre pour nous comme un autre. On a des permanences qui sont hebdomadaires ou d'autres mensuelles. J'ai entendu dire que, vous alliez parler, par exemple, d'OpenStreetMap. Évidemment, nous, on a organisé ici en local State of the Map avec OpenStreetMap France, ici à Montpellier, avec l'université Paul Valéry. Et à cet effet, on organise depuis de nombreuses années, puisque ça fait longtemps qu'on fait des cartes aux parties, on organise des rencontres OpenStreetMap à Montpellier. On va ouvrir d'autres rencontres OpenStreetMap, donc le groupe qu'on a monté, Montpellier, a monté un groupe qui s'appelle Erosme. Donc c'est comme l'Héro et puis OSM à la fin. Donc on va monter d'autres permanences à Béziers. On attend la réponse à Lunel, qui est une petite ville toujours dans l'Héro. Donc voilà, on monte des permanences sur OpenStreetMap, sur Linux. Donc c'est apprendre à utiliser Linux, apprendre à utiliser des logiciels comme Blender, Krita et tout ça.
Ce sont des logiciels d'édition graphique pour
voilà,
ceux qui
et celles qui Wikipédia, on a des permanences Wikipédia, donc c'est une encyclopédie libre aussi, et on fait un tas de permanences qui sont soit mensuelles, soit hebdomadaires.
Et dans le cadre des permanences que nous donnons, bien sûr, nous avons des permanences qui sont celles liées essentiellement au droit et à la culture libre aussi, et notamment, bien évidemment, celle de l'April. Mais cette permanence-là, elle est particulière parce qu'elle se fait lors d'un apéro. C'est moi qui anime ces apéros. Et en fait, tout simplement parce que j'ai des notions juridiques et que l'April travaille beaucoup sur des notions de droit. Et en même temps qu'on menait ces apéros, on nous posait des questions sur la quadrature du net, sur la Free Software Foundation, dont nous suivons les évolutions aussi. Et donc, on a tout groupé. Donc, c'est le troisième jeudi de tous les mois que nous avons cet apéro qui mobilise beaucoup de belles personnes. Et cette année, j'ai demandé à ce que nous ne fassions pas qu'écouter ce qui se passe dans les communautés au niveau national et international, et que, entre guillemets, consommer, mais qu'on produise aussi. C'est-à-dire qu'on travaille pour ces communautés en disant, ben nous, ce mois-ci, on s'est réunis et voilà ce sur quoi on a travaillé. Bien sûr, en lien avec l'impulsion que donne la communauté.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que comme on disait, les GULs rassemblent des personnes, essayent d'initier de nouvelles personnes au logiciel libre, mais il y a aussi ce volet promotion et défense du logiciel libre, aussi pour ce qui est l'action institutionnelle portée par exemple par l'April, la Quadrature du Net, et du coup vous relayez en fait le message de ces associations nationales, et vous, du coup, vous faites connaître aussi une action institutionnelle qui est très très importante aussi pour la défense de l'environnement qui peut permettre au logiciel libre de s'épanouir. Et à qui sont adressés?
Oui, si tu me permets, Isabella, c'est une particularité, me semble-t-il, du GUL qu'est Montpellier Libre, de réunir des gens qui ont des profils différents. Et tu vois, pour certains d'entre nous, dans le cadre de nos métiers, nous avons aussi des missions où nous parlons du libre et où nous défendons ces positions institutionnelles en disant ben, la Prix fait ça, la Quadrature fait ça, la Free Software fait ça, Montpellier Libre fait ça, Frama fait ça. Mmh. Et nous, on vous demande, vous, gouvernement, vous, groupe de gouvernement, de faire telle ou telle chose. Mais c'est une particularité de Montpellier Libre qui regroupe des gens de profils différents et notamment pas mal de gens qui sont dans l'univers de la recherche, de l'enseignement et même de l'entreprise, et qui donc, et c'est parce que nous avons tous ces profils différents que nous pouvons faire ça. Tout simplement relayer les choses de communauté vers le grand public, c'est en fait on ne se coupe pas en morceaux, on est des libristes et on le véhicule et dans notre métier et dans nos activités associatives qui portent notre engagement de citoyen.
Et tu faisais bien de me rappeler tous les profils qui participent activement aux actions de Montpellier Libre. Ce qui me fait poser la question, combien de bénévoles, de membres actifs compte Montpellier Libre ? Parce que vous proposez, comme vous le disiez, beaucoup de permanences hebdomadaires, mensuelles. Vous participez à beaucoup des événements. Donc voilà, vous êtes combien environ comme membres actifs ?
Alors c'est très difficile, tu sais, c'est très difficile de déterminer un nombre parce que tu vas avoir des gens qui vont intervenir pratiquement tous les jours et des gens qui vont intervenir
ponctuellement
par mois ou voire quelques mois. Nous avons des individus qui adhèrent à Montpellier Libre. Nous avons aussi des collectivités, des entreprises, l'AMU par exemple, la CCI Héro, le Club de la Presse, l'agglomération de Béziers. Donc voilà, il y a des profils qui sont complètement différents.
On ne sait pas en fait combien on est. On peut, en fait, si tu veux, il y a à peu près entre 290 et 300 adhérents. Maintenant, il faut faire le compte après la foire aux associations, enfin, l'antigone des associations, qui fait que beaucoup de gens adhèrent la semaine suivante et l'antigone des associations, c'était la semaine dernière. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que quand tu as comme adhérent, par exemple, une agglomération de 17 villes, l'agglomération de Béziers Méditerranée, combien ça comporte de personnes qui, effectivement, font du libre. Quand tu as comme adhérent l'AMU, l'Association de Mutualisation des Universités et de l'Enseignement Supérieur, qui représente en fait 200 associations, qui représente l'ensemble des gens qui travaillent dans l'ensemble des universités de France sur la conception de logiciels, combien de personnes ça représente exactement. Quand des associations d'étudiants où tu as 80 000 étudiants qui sont intéressés, combien ça
Oui, je comprends. C'est un réseau potentiellement énorme, comme vous le dites. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je sais que vous aviez deux sujets qui vous intéressaient, que vous souhaitiez aborder lors de cette chronique. On peut les aborder rapidement. Il y a le projet GUL Academy, qui est une autre action qui est très importante pour vous. Vous pouvez nous expliquer très brièvement en quoi ça consiste.
Donc l'idée c'est en fait que nous nous battons pour une société inclusive et en paix, Ça, c'est les objectifs du développement durable qui en sont c'est l'aboutissement des objectifs du développement durable. Donc, on a monté aussi une autre association qui s'appelle API, Action of Public Interest, et qui travaille beaucoup sur l'ODD4, une action de qualité, éducation de qualité, et les autres ODD, mais toujours sur l'ODD4. Et on s'est dit, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup d'enseignants dans des matières différentes, et on se rend compte qu'on peut aider les GUL à monter en compétences, parce qu'il y a de belles pépites qu'on aimerait voir vraiment émerger. On est en peer-to-peer, en pair à pair, entre gens qui ont des compétences différentes sur les mêmes sujets, capables de faire monter en compétences les gens. Donc on a créé la GUL Academy, soit pendant RMS, soit au moment
par les
rencontres mondiales du logiciel libre,
si elles ont lieu.
Voilà, je te laisse continuer.
Comme cette année, on les a organisées. Donc les Romeleux n'ont pas eu lieu cette année. Par contre, nous, on a organisé une GUL Académie.
Si je peux résumer, je suis vraiment désolée, mais le temps, malheureusement, il est radin. Si je peux résumer, voilà, c'est une façon, effectivement, de partager vos retours d'expérience, vos compétences avec d'autres GUL et de faire en sorte que les GUL s'outillent, en fait, pour promouvoir...
Et pour monter en compétences.
Parce que, si tu veux, il y a la double qualité de... entre guillemets, d'enseignants, de chercheurs et d'experts de certains sujets, qui sont en même temps des libristes. Donc, si tu veux, c'est très simple pour nous de pouvoir expliquer le libre, mais aider aussi à expliquer des choses plus classiques et qui vont pouvoir aider les groupes d'utilisateurs de logiciels libres à aller plus loin. L'objectif, c'est que ensemble, avec des partages d'expériences, on puisse... si tu veux vraiment faire la promotion du libre, c'est-à-dire que le libre se développe de plus en plus.
Ben merci pour ce beau projet. Donc je suis vraiment désolée, le temps à notre disposition est fini, mais je remercie vraiment beaucoup pour votre participation, pour votre intervention aujourd'hui, et je souhaite le meilleur en fait pour Montpellier Libre du coup. Merci beaucoup.
Merci Isabelle. Tu nous permets, on annonce les rencontres mondiales sociales, solidaires, libres et éthiques le 6 et 7 décembre 2019 à Montpellier. Et si vous voulez, on reviendra dans une autre émission pour vous en parler. C'est en fait des rencontres qui vont permettre aux libristes qui partagent les mêmes valeurs que les acteurs de l'ESS de se rencontrer, d'en discuter et de monter ensemble des projets. À bientôt Isabelle.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci Pascal, merci Myriam, merci Isabella. Donc c'était Montpellier Libre avec Myriam Criquet et Pascal Arnoux. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Neutron Star par Gandizia et on se retrouve juste après. Nous venons d'écouter Neutron Star par Gandil Zia, Raphaël Badawi, c'est sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant de passer au sujet suivant, je vais répondre à la deuxième question du quiz, car dans l'interview précédente, le mot a été cité. Donc je vous rappelle la question, c'est quel est le nom d'un célèbre noyau de système d'exploitation libre et d'où vient ce nom ? Nos amis de Montpellier Libre ont cité le nom Linux, et ça vient du nom de son créateur qui s'appelle Linus Torvalds. Alors Linux est un noyau, ce n'est pas un système complet d'exploitation, donc je vous renvoie à l'écoute de l'émission du 30 avril 2019 que nous avons consacrée aux distributions GNU Linux, et vous verrez pourquoi nous on emploie le terme GNU Linux quand on fait référence à la distribution entière. Donc voilà, ça c'était la réponse à la deuxième question du quiz, et pour la réponse à la première, nous attendrons la fin de l'émission. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur OpenStreetMap avec donc Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors c'est la deuxième émission. Alors déjà je vais préciser tout de suite avant d'oublier que si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, vous pouvez vous connecter sur le salon web de la radio causecommune.fm. Tout en haut, il y a un bouton qui s'appelle chat ou nous appeler au numéro 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Et Étienne en régie attend vos appels. Alors, j'allais dire que c'était la deuxième émission sur OpenStreetMap, car nous avons consacré une première émission le 11 juin 2019, donc déjà avec Christian Kest et avec Noémie Lehubi d'OpenStreetMap France. Donc les personnes qui voudront réécouter cette émission, le podcast est disponible sur le site causecommune.fm et sur le site de l'April. Et donc on va faire une deuxième émission. On va revoir un petit peu en introduction quand même un certain nombre de points qu'on a évoqués sur la première émission, parce qu'on suppose que tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Et on va aborder un certain nombre de nouveaux points. Alors déjà, première question, une présentation individuelle rapide. Christian, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire malgré ta longue expérience, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ?
Je suis contributeur sur le projet OpenStreetMap depuis 2009. J'ai fêté mes 10 ans d'inscription cet été. Et je suis un des fondateurs de l'association française OpenStreetMap France qui fait la promotion du projet en France.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur le projet OpenStreetMap, c'est quel était le problème à régler, à quel moment, et quel est finalement l'objectif de ce projet ?
La naissance, c'est 2004. Un étudiant anglais avait besoin pour sa recherche de données géographiques. Il s'est adressé à l'équivalent de l'IGN en Angleterre qui s'appelle l'Ordnance Survey, espérant obtenir les données en question pour pouvoir travailler. Et il a compris que c'était très compliqué. Il a trouvé ça anormal que des données produites avec de l'argent public ne soient pas ouvertes. On était encore très très tôt par rapport au mouvement d'Open Data, mais voilà. Ça. Et du coup, il s'est dit, mais et si on crée une base ? Et voilà, c'était un projet complètement utopique, mais c'est génial parce que ça a marché.
Et donc, il y a eu le choix d'une licence, donc c'est l'Open Database licence, c'est
oui, ça ? Alors on a eu un changement de licence, je vais passer ces détails-là, mais oui. Aujourd'hui, les données sont sous licence ODBL, Open Database License. Donc, c'est une licence libre qui, avec attribution et avec partage à l'identique. Donc, l'idée, c'est que toutes les améliorations qui peuvent être faites sur les données, elles doivent être repartagées. Par contre, une chose importante par rapport à cette licence, c'est que ce que l'on fait avec les données, si ça n'est pas une base de données, ça n'a pas à être sous la même licence, vu que c'est une licence qui s'adresse qu'aux bases de données. Donc si je produis une carte papier, si je fais une appli ou quelque chose comme ça, on n'a pas du tout de partage à l'identique à respecter. C'est vraiment, le partage est limité à améliorer la base, parce que c'est le cœur, c'est l'essence du projet.
D'accord. Et donc, l'objectif, c'est de dessiner le monde et avec des données libres et de permettre un mot-clé qui est sans doute important dans OpenStreetMap, c'est que c'est collaboratif. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut contribuer à cette carte, contrairement à d'autres cartes où elles sont simplement utilisatrices.
Oui, tout à fait. N'importe qui peut améliorer la carte, la compléter, venir rajouter des informations, venir corriger des erreurs et la mettre à jour, parce que le terrain ne fait que de changer et donc il faut sans arrêt mettre à jour les bases de données cartographiques.
D'accord. Alors, on va donner le site principal, parce que je l'ai oublié. Donc, c'est openstreetmap.org. Ça, c'est le site principal.
C'est le site international,
oui. Le site international. Le site d'OpenStreetMap France, donc, c'est openstreetmap.fr. Donc, tant qu'on y est sur OpenStreetMap France, quel est l'objet de l'association OpenStreetMap France ?
C'est vraiment assurer la promotion, c'est-à-dire être un contact un peu officiel et structuré, ce qui nous permet de signer des conventions, d'être un contact pour la presse, d'être un contact pour les services de l'État, l'administration, les collectivités. Ça nous permet d'organiser le State of the Map. On en a entendu parler juste avant avec
Mon Libre.
Donc tous les ans, OpenStreetMap France organise une conférence annuelle en France qui est destinée plutôt aux contributeurs français et francophones. Et puis, le week-end dernier, s'est déroulée à Heidelberg, en Allemagne, la conférence internationale annuelle.
D'accord. Alors, petite question rapide, on en fait un tour d'horizon pour les personnes qui n'ont pas écouté la première émission. Petite question rapide sur l'utilisation d'OpenStreetMap. Une personne, qu'est-ce qu'elle va trouver sur OpenStreetMap ? Est-ce qu'elle va trouver les mêmes choses qu'elle trouve sur d'autres sites de cartographie ? Et deuxième question, est-ce que pour utiliser OpenStreetMap, c'est uniquement le site web ou est-ce qu'il y a des applications pour téléphone mobile qui sont disponibles ?
Alors, le cœur d'OpenStreetMap, c'est une base de données. Une base de données, ça ne va pas parler à beaucoup de gens. Par contre, à partir de cette base de données, on peut produire des cartes, des fonds de cartes, on peut faire des calculs d'itinéraires, on peut faire des recherches de points d'intérêt, d'adresses. On fait une partie de tout ça sur le site d'OpenStreetMap.org, mais le but d'OpenStreetMap.org, ça n'est pas d'être l'outil le plus... à destination du grand public, c'est pas tellement ça. On a par contre plein d'autres outils qui ont été développés, des cartes plus ou moins spécialisées, des fonds de cartes qui sont plus destinés à des cyclistes par exemple, des applications qu'on a sur mobile, que ça soit Android ou sur iPhone. Et vous avez par exemple, je vais prendre un exemple sur la région Île-de-France. Il y a les données concernant les pistes cyclables, les données les plus précises et les plus à jour sont dans OpenStreetMap. Et il y a une application qui s'appelle GeoVélo qui depuis des années existe et collabore aussi avec la région Île-de-France pour améliorer les données, du coup améliorer les calculs qui sont faits par d'itinéraires qui sont faits par l'application. Et tout ça, c'est dans la base OpenStreetMap, c'est-à-dire que n'importe quelle amélioration bénéficie du coup vraiment à tout le monde.
Alors, c'est important, c'est ce que tu cites, notamment le rôle des collectivités. Dans l'émission précédente, notamment Jean-Christophe Becquet avait parlé du projet Dessine ta ville et aussi des liens avec les collectivités. Justement, quand on dit que toute personne peut contribuer à OpenStreetMap, ce n'est pas vraiment les personnes, c'est individuel, c'est aussi évidemment les collectivités, les entreprises, etc. Donc ça, c'est la partie utilisation. Donc évidemment, on mettra des références sur le site de l'April, mais je suppose que sur les sites openstreetmap.org et .fr, on retrouve des liens vers les différentes applications. Je crois qu'il y a une question qui revient assez souvent, et après on passera à la partie contribution, c'est le GPS et les gestions de trafic. Est-ce que c'est déjà présent dans OpenStreetMap ? Est-ce que ça ne sera jamais présent pour diverses raisons ?
Alors, la partie trafic qui est une donnée...
Partie trafic, voilà, exactement.
Voilà, la partie trafic, ça c'est de la donnée souvent en temps réel. Et la base OpenStreetMap n'a pas vocation à décrire le monde en temps réel parce que ça serait un travail énorme d'arriver à ça. Et surtout, elle n'a pas été conçue pour ça à l'origine. On va dire que c'est une description froide du monde. Pour une description chaude, hein, avec des données très changeantes, il y a d'autres possibilités. Moi, j'ai essayé de démarrer un projet qui s'appelle Open Event Database par rapport à ça. Aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver à faire converger de la remontée d'informations libres dans une base libre. C'est encore un petit peu compliqué.
D'accord. Alors, notre invité suivant est déjà là. Il tapote sur le clavier, en fait, sur le salon web pour me signaler des choses. Et donc, plutôt que de répéter ce qu'il écrit sur le salon web, je propose donc que Laurent Costi nous explique ce qu'il a découvert la semaine dernière, qu'il trouve ça très intéressant. Et comme ça, on pourra avoir la réaction en direct de Christian Caisse. Donc, Laurent Costi.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors j'ai eu la chance de faire une formation la semaine dernière sur la question des données. Donc évidemment, la question d'OpenStreetMap a été abordée, d'autant qu'il y avait un militant d'OpenStreetMap qui était formateur. Donc voilà, j'ai pu découvrir des choses alors que j'avais appréhendé de loin, mais que je n'avais pas vraiment creusé. Et entre autres, j'ai découvert la page qui décrit finalement les contributions en temps réel sur OpenStreetMap. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour montrer toute l'implication et le nombre de personnes impliquées dans le monde pour contribuer à la base de données. J'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, ça devrait être beaucoup plus connu. Donc, j'ai mis le lien dans le...
Alors, le lien, c'est live.openstreetmap.fr.
Voilà. Et ça, ça vous montre, avec un très léger décalage, toutes les contributions au fur et à mesure qu'elles arrivent. J'adore démarrer cette page dans un onglet masqué quand je fais une présentation. Et à la fin de la présentation, je passe sur cet onglet. Je dis, voilà, pendant cette présentation, il y a eu 4200 personnes qui ont rajouté 150 000 objets, etc., etc.
Donc, on est quand même un peu dans le temps réel, là. Hein, parce que pour le coup,
alors, là, évidemment... c'est le temps réel des éditions. C'est un peu. Il y a quelque chose de similaire qui existe, je crois, pour Wikipédia, mais qui fait de la musique, qui fait des sons. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce truc-là.
Non.
Et ça permet d'avoir comme ça une sorte d'ambiance sonore qui vient des contributions Wikipédia en temps réel.
D'accord. Là, c'était l'utilisation. Et donc, on va passer un petit peu rapidement maintenant à la partie contribution. Et je répète, lors de l'émission du 11 juin 2019, on avait abordé ça en détail. Donc, n'hésitez pas à écouter le podcast. Mais là, on fait un petit récapitulatif. Donc, la partie contribution à OpenStreetMap. Est-ce qu'il faut des connaissances particulières, notamment en cartographie? Est-ce qu'il faut utiliser des outils particuliers? Est-ce qu'il faut des droits particuliers pour rajouter des informations dans OpenStreetMap? Et est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais, ou même que Laurent pourrait donner, pour quelqu'un qui veut se lancer dans OpenStreetMap? Peut-être tout à l'heure, peut-être les cartoparties, tu pourrais expliquer ce que c'est, vu que tout à l'heure, Pascal Arnoux de Montpellier Libre en a parlé. Donc voilà, la contribution. Comment on y va? Qu'est-ce qu'on a besoin pour contribuer? Quelles compétences sont nécessaires?
La façon la plus simple de contribuer, c'est d'aller sur le site openstreetmap.org, d'aller regarder son quartier sur OpenStreetMap, parce qu'on est tous experts géographiques de notre quartier, on le connaît. Quand on a assez zoomé, qu'on voit juste son quartier, il y a un onglet modifié. Et cet onglet modifié, on y a accès à partir du moment où on s'est ouvert un compte. Donc voilà, il suffit de s'ouvrir un compte sur le site, de cliquer ensuite sur l'onglet modifié et on peut rajouter. Il y a un petit tutoriel qui explique comment l'éditeur qui fonctionne dans le navigateur, comment le manipuler avec les concepts de base d'OpenStreetMap. Et puis ça, c'est vraiment les premiers pas. Une cartopartie pour répondre à ta question, une cartopartie, c'est un événement qu'on essaye de faire sur une demi-journée, voire même sur une journée, où on va aller sur le terrain pour expliquer aux gens comment noter des informations, quelles sont les informations qui sont intéressantes à mettre dans la base OpenStreetMap. Et puis ensuite, on va faire une session justement de saisie, où on va montrer comment fonctionnent les outils de saisie. Alors, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui qui est sur le site web. Et ce qui permet du coup de démarrer en ayant quelqu'un qui nous tient la main, quoi.
D'accord. Alors, un point essentiel qu'on a déjà abordé la première fois, mais qu'il est important de répéter, c'est la limite sur les informations qu'on peut saisir. C'est que des informations publiques et non pas des données personnelles. On ne peut pas, par exemple, expliquer que tel voisin habite à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment des données publiques qu'on a récupérées de façon libre.
Oui, tout à fait. On s'arrête évidemment uniquement à l'information qui est publique, voire même pour certaines informations, même si elles sont accessibles publiquement. Parce que si on regarde sur une sonnette, on peut voir le nom de la personne. Ce n'est pas pour ça qu'on va le recopier.
Voilà. OK. Et OpenStreetMap a joué un rôle important dans la cartographie de zones, notamment aussi de guerre ou de séisme. J'ai l'impression que c'est une des façons dont OpenStreetMap s'est fait le plus, quelque part, connaître, par la capacité, tout d'un coup, en réaction, de pouvoir réétablir la carte du monde alors que le monde a totalement été dévasté ou en tout cas été grandement modifié.
Oui, c'est exact. On a eu, malheureusement, certains événements qui nous ont mis dans la lumière parce qu'on a pu aider, on a pu donner un coup de main, parce qu'on peut mobiliser aussi des centaines de personnes en très peu de temps pour aller cartographier des zones qui ont été ravagées, soit pour soit tremblements de terre, tsunamis, inondations, déplacements de population. Enfin, on a tous ces cas de figure-là. On a eu la lutte contre Ebola aussi, enfin, toutes ces choses-là. Mais il ne faudrait pas quand même trop réduire OpenStreetMap à ce côté humanitaire. même si c'est extrêmement utile et important, au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de données autour de chez nous qui proviennent d'OpenStreetMap et qui sont utilisées, y compris par des services officiels.
Un exemple, par exemple ?
Il y a certains fonds de cartes qui sont utilisés par la gendarmerie qui utilisent des données OpenStreetMap. Et puis, il y a des... tout à l'heure, je citais le cas des données géographiques sur les pistes cyclables. Donc là, c'est carrément la région qui...
La région Île-de-France.
La région Île-de-France qui finance la mise à jour des données géographiques.
Laurent Costi ?
Est-ce que ça peut être le support de sciences collaboratives ?
Oui, aussi. Il y a les domaines les domaines que touche OpenStreetMap sont pas limités. Le nom, je dis souvent qu'il est assez mal choisi parce que Open, alors ça, oui, on est tous d'accord. Street, on ne fait vraiment pas que les rues. Et Map, on ne fait pas que des cartes avec ces données. Donc, ça devrait plutôt s'appeler, je pense, Open Geodata, mais c'est quand même moins sexy.
Ça aurait peut-être eu moins de succès, effectivement. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'applications. Il y en a une qui est pas mal que je trouve pour les débutants pour leur utiliser, c'est Street Complete. Parce que, en fait, tu te mets dans ton quartier et les premières, c'est une sorte de quête, en fait. Il manque des données à tel endroit et l'application commence par te poser des questions toutes simples, que tu es capable, par exemple, les horaires de bus ou de la banque d'à côté. Et en fonction du nombre de quêtes que tu établis, les questions deviennent de plus en plus élevées et permettent de contribuer. Donc, c'est aussi une façon de démarrer avec OpenStreetMap. Je l'avais installé justement après l'émission de la dernière fois.
On a bien fait de venir, alors.
Exactement. C'est aussi pour ça que je fais des émissions. C'est pour en apprendre plus sur les projets autour et pour éventuellement y participer. Je pense qu'on a peut-être sans doute fait le tour sur la réintroduction de globalement d'OpenStreetMap. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là ou Laurent ?
Non, je pense, pour moi c'est bon, je pense qu'on a un peu fait le tour.
Moi j'ai posé les questions au fur et à mesure.
Tu poses les questions au fur et à mesure. Alors, on va aborder d'autres sujets, et puis notamment on va commencer déjà par... parce que si on t'a invité aujourd'hui, le 24 septembre 2019, c'est pas totalement par hasard, c'est que tu reviens d'Allemagne, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Où s'est déroulé donc State of the Map Monde, donc en français on dirait l'état de la carte.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, un peu, voilà, même si bon. Donc d'abord, c'est quoi State of the Map Monde et quelles sont les nouvelles du projet OpenStreetMap ? Donc peut-être une nouvelle direction, les nouveaux projets à venir, les évolutions.
Un State of the Map, c'est notre grand événement annuel qui sert à plusieurs choses. La première chose, c'est déjà se voir. Parce que on échange, c'est un projet en ligne, mais c'est quand même bien de pouvoir discuter en chair et en os avec quelqu'un en direct, souvent avec une boisson pétillante. Et on a tellement de choses à se raconter qu'on ne peut pas faire vraiment en ligne. C'est vraiment génial pour ça. On a évidemment des conférences, des présentations très nombreuses sur plein de sujets. Et c'est à chaque fois l'occasion de découvrir ce qui est fait dans d'autres pays, dans d'autres communautés. Et c'est une façon d'échanger... compétences et les savoirs un petit peu partout. Et pour ça, ça dure malheureusement que 3 jours, mais je pense qu'on pourrait durer une semaine tellement on a de sujets à aborder. Et là, à Heidelberg, on était un peu plus de 500 qui venaient, beaucoup d'Europe, parce que c'est évidemment la proximité. Mais on avait aussi des gens qui venaient d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, un petit peu partout.
D'accord. Et est-ce qu'il y a donc, quelles sont les nouveautés ou les actus phares suite à State of the Map ?
Moi, il y a un sujet qui m'a que je pense de plus en plus présent, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre sphère. On fait beaucoup de contributions en se basant sur des images aériennes, des photos aériennes, et il y a de plus en plus d'acteurs. Font partie des GAFA en général. On a Microsoft, on a Facebook qui s'intéressent pas mal à ce genre de choses et qui amènent le côté intelligence artificielle, détection automatique de bâtiments, de routes et d'objets sur les photos aériennes, ce qui peut être une aide effectivement pour les contributeurs. Mais moi, ça me pose quelques petits problèmes. Ça vaut le coup d'en discuter, je pense. C'est qu'en fait, on alimente des modèles numériques, des modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des réseaux de neurones aussi. Mais ces modèles, eux, ils ne sont pas ouverts. Et ça me pose un petit problème philosophique quand même, et de pousser les gens à contribuer parce que effectivement ça va nous aider à détecter des bâtiments, mais ça ne fait pas que ça. Et puis on n'a plus de contrôle et on perd une certaine autonomie qu'on avait avant. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces sujets-là, parce que quand on est sur un site web et que le reCAPTCHA de Google nous oblige à...
Explique juste ce que c'est qu'un reCAPTCHA.
Le reCAPTCHA, c'est quand il faut cocher là, je ne suis pas un robot, et puis que vous avez des photos où on vous demande, voilà, on vous demande de reconnaître. Alors, au tout début où ça existait, les reCAPTCHA, c'était par rapport à la reconnaissance d'écriture. Et puis petit à petit, ça a changé, et ça fait déjà plusieurs années que on vous demande de reconnaître des bicyclettes, des bus, des boutiques, etc.
Feux tricolores.
Des feux tricolores, c'est ça. Et ça sert en fait à entraîner les modèles de reconnaissance d'analyse d'image qui sont entre autres utilisés pour les véhicules autonomes. Donc en fait, c'est du travail gratuit.
Gratuitement pour Google. Alors ou là, les oui, autres.
Clairement, c'est du travail gratuit. Voilà. Bon, contraint, parce qu'on est obligé de passer par ce barrage pour pouvoir accéder aux services qu'il y a derrière. Donc là, bon, on y est contraint. Donc je lutte déjà un peu contre ça. Mais ça me dérange quand on rentre dans du travail gratuit qui est non contraint. Où là, je me dis, bon, quand même, on pourrait peut-être réfléchir à avoir d'autres solutions que d'alimenter les modèles, des modèles fermés, quoi.
D'accord, donc ça c'était une discussion à Set of the Map, et c'est en cours la discussion.
Il n'y a pas vraiment de discussion, c'est une réflexion que j'ai eue, et moi j'ai essayé d'entamer la discussion avec plusieurs personnes sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte au tout début de l'arrivée d'une nouvelle technologie, à quel point elle peut rapidement nous réenfermer.
Et que ça peut être un piège
oui,
sur le long terme.
Oui.
D'accord, alors on va en parler, on va faire une petite pause musicale. Alors j'espère qu'en régie, alors d'ailleurs je profite en régie pour remercier Étienne. À la fois Étienne gère la régie et, pour être tout à fait transparent, il gère ma plus jeune fille, parce qu'aujourd'hui c'est grève école et donc ma plus jeune fille est à côté de lui. Donc on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Kolou Kolavi par les journées de création musicale Zik Libre en Bib.
Yeah.
Nous avons écouté Colouka la vie par les journées de création musicale Zik libre en Bib. Donc, musique libre sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Bah, une licence qui est assez proche de la licence d'OpenStreetMap, mais ce n'est pas pour les mêmes types de données. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Donc, nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Alors, je répète que vous pouvez intervenir soit sur le web chat de la radio, soit en appelant au numéro 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. N'hésitez pas, Christian sera là pour répondre à vos questions. Alors, nous continuons donc à parler d'OpenStreetMap. Et ben, en parlant de questions par téléphone, je vais relayer deux questions que j'ai reçues préalablement à l'émission. La première, qui est toute simple, hein, c'est la personne aimerait savoir si OpenStreetMap envisage de proposer l'ajout d'images satellites ou par drone, même si ce sera incomplet. Christian Kest.
Alors, sur le site openstreetmap.org, c'est pas tellement l'objectif de fournir ça. Par contre, les images aériennes, les images satellites, les images par drone, ça peut être extrêmement utile pour contribuer, c'est-à-dire pour améliorer les données de la carte. Par chance, on a depuis des années des partenariats ou des conventions avec des gens comme Bing ou avec une entreprise américaine qui s'appelle...
Bing, le moteur de recherche ?
Oui, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, tout à fait. Et puis, il y a Digital Globe, qui est une société américaine qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Maxar, qui a des satellites civils qui font de l'image très haute résolution, genre 30 cm par pixel, hein, ce qui est depuis un satellite, c'est pas mal. Et oui, il faut bien ranger son jardin maintenant, ça se voit sinon. Et donc, on peut utiliser, ils nous autorisent à utiliser tout ce fond d'images, ces pétas de pixels.
Alors, pétas, c'est une mesure...
c'est une mesure, mais là, je pense qu'on est même au-delà des pétas.
Qui est très, très importante, on va dire.
Oui, hein.
Les gigas sont très loin, là.
Ouais, là, on est très loin. C'est-à-dire, quand nous, on fait nos photos avec des mégapixels, là, on est dans des milliards de mégapixels. Et puis, on a aussi de plus en plus de photos aériennes qui sont disponibles en open data en France. On a à peu près la moitié du territoire métropolitain qui est disponible en open data, avec des résolutions qui varient de 20 cm par pixel à certains endroits. Là, maintenant, sur la région parisienne, les dernières, on est à 5 cm par pixel. Donc là, il faut vraiment bien ranger le jardin.
D'accord. Et ces données donc, sont sous la même licence libre
Non, parce que ce sont des images, donc c'est pas une base de données, donc c'est pas tout à fait les mêmes licences.
Oui, effectivement.
Et puis là, c'est de la donnée publique, donc en France, la réglementation vis-à-vis de la donnée publique, ça fait qu'on a une licence qui s'appelle la licence ouverte, qui est l'équivalent d'une CC BY, hein, pour simplifier. Et donc, on peut utiliser ces images et nous, on les reprend sur nos serveurs pour pouvoir les diffuser plus simplement pour les contributeurs. Par contre, on ne fournit pas de service pour afficher ça, par exemple, sur une carte, sur son site, parce que notre objectif aussi n'est pas vraiment de fournir des services, mais vraiment de fournir la donnée de base pour pouvoir créer ces services.
Et que les autres créent les services dont ils ont besoin.
Dont ils ont besoin avec la donnée de base.
Avec la donnée de base, d'accord. Alors la deuxième question, alors là, qui est un peu plus longue, mais qui permet aussi peut-être de rentrer dans un sujet qui est intéressant, qui est la gouvernance du projet et les choix. Donc je vais essayer de la résumer. C'est notamment, en fait, c'est par rapport, donc, quand on met à jour une donnée sur OpenStreetMap ou quand on la rajoute, on peut mettre un tag qui va décrire un lieu, un équipement. Et là, le cas présent qui m'a été soumis, c'est celui des écoles, qui, en fait, le tag donc, école est à la fois utilisé pour cartographier la surface occupée par un groupe scolaire et aussi pour cartographier individuellement chaque école qui en fait partie, en y associant les infos spécifiques. Donc la personne m'a envoyé un lien avec, prenons un exemple à Saint-Denis, où une requête donnerait 6 écoles, alors qu'en fait il n'y en a que 4 en réalité. Et donc la personne m'explique qu'il y a eu plusieurs propositions, enfin plusieurs solutions en tout cas qui ont été proposées, oui, qu'il y a un débat sur des forums internes d'OpenStreetMap. Donc apparemment tu as suivi ces échanges, donc est-ce que tu peux nous dire l'état de ces échanges et finalement comment la décision finale sera prise, si une décision finale doit être prise.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce cas-là. Ce qu'il y a, en fait, il n'y a jamais vraiment une décision très claire, très tranchée. Il y a une forme de consensus par l'action, c'est-à-dire les contributeurs vont trouver plus logique et plus cohérent de faire les choses d'une certaine façon. On se met d'accord globalement aussi en écrivant les choses sur un wiki qui nous sert un peu de référence. Mais il y a parfois des petites différences entre ce que le wiki a prévu et puis la vraie façon dont les contributeurs cartographient. On a aussi des évolutions parfois dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le détail au début, et puis petit à petit, il faut qu'on détaille un petit peu plus. Alors effectivement, là, typiquement, un groupe scolaire, ça peut regrouper plusieurs établissements scolaires, plusieurs écoles. Typiquement, une école primaire, vous allez avoir une section maternelle et une section... élémentaire. Voilà. Je cherchais les mots. Mais là, on a même encore d'autres problèmes, parce que, par exemple, l'équivalent d'une école maternelle dans beaucoup de pays étrangers n'est pas considéré comme une école, mais comme un jardin d'enfants. Donc on a même aussi des discussions, est-ce qu'on doit cartographier une école maternelle comme un jardin d'enfants, ou bien comme une école, mais avec des enfants bas âge. Donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on cherche vraiment à trouver un consensus, à faire les choses simplement, parce que si on a une façon de modéliser les données qui est trop compliquée, trop éloignée de ce qui nous vient naturellement, ben, ça ne marche pas, quoi.
D'accord. Alors, ça me fait penser que la première fois, on l'avait un petit peu expliqué sur la structure OpenStreetMap, c'est qu'il n'y a pas... Alors, si je me souviens bien, on va voir si j'écoute bien mes émissions. Il n'y a pas d'équipe salariée dans la fondation.
Il y a une fondation de droit anglais et il y a une personne qui s'occupe de l'administration générale.
Oui, c'est
générale,
une personne, voilà.
Voilà, qui est salariée, mais il n'y a qu'une seule personne.
Mais qui n'y a pas de salarié qui gère, on va dire, justement ce genre de discussion, donc tout se fait au niveau bénévole sur les forums. C'est des forums internes ou c'est des forums publics ?
Tout est public.
Tout est public.
Tout est public. Et là, et même au niveau de la fondation, il y a un board, etc., etc. Mais le board, c'est pas lui qui va prendre des décisions de ce type-là.
C'est le conseil d'administration.
Voilà, c'est le conseil d'administration de la fondation qui est là pour assurer la pérennité du projet. C'est sa mission principale. Et je crois que dans le manifeste de la création de la fondation, il y a la fondation soutient le projet mais ne le contrôle pas. Ce qui est quand même assez intéressant, je trouve.
Tout à fait. Alors, donc, ça, c'est donc la deuxième question. Donc, je remercie les deux personnes qui ont envoyé ces questions qui permettent d'avancer en tout cas dans la discussion. Et puis bon, j'ai découvert un exemple à Saint-Denis. Je pense que la personne a envoyé à Saint-Denis l'exemple de Saint-Denis parce que j'habite à Saint-Denis et donc que je connais bien en plus cet espace scolaire effectivement qui regroupe beaucoup plus d'écoles au même endroit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps, donc à appeler le 09 50 39 67 59, je répète 09 50 39 67 59, ou à venir sur le salon web de la radio sur causecommune.fm. Tout à l'heure, on va revenir sur State of the Map. Tu nous avais parlé donc de l'arrivée de l'intelligence artificielle et des problématiques que cela pouvait causer. Tu m'avais aussi, dans le cadre de la préparation de l'émission, indiqué que tu souhaitais parler de l'extension du champ de l'ouverture démarrée par le code source. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu entends par là ?
J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est... On a beaucoup parlé au début d'ouverture, beaucoup des logiciels et des codes sources. Ensuite sont venues les données. Je pense que les données sont quand même venues un peu après. Et tout à l'heure, j'ai parlé justement des modèles qu'on entraîne avec ces données, donc qui sont un peu des résultats. Et je pense qu'il faut aussi aller vers un mouvement d'ouverture de ces modèles pour deux raisons. C'est que si... pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir ne pas avoir à refaire les mêmes entraînements. Aujourd'hui, entraîner des modèles d'intelligence artificielle, c'est quand même très coûteux en termes d'énergie, parce que c'est des gros calculs faits par des ordinateurs, ça consomme de l'électricité, etc. Il y a beaucoup de ressources qui sont mises en œuvre, et moi je trouve ridicule qu'on refasse le même travail alors qu'il a déjà été fait. Donc on devrait avoir aussi, pour moi, les open models, des modèles qui eux aussi sont ouverts, et pousser aussi dans ce sens-là pour que justement... les contributions qu'on fait de façon volontaire, on soit sûr que le résultat, lui aussi, reste ouvert.
D'accord. Et donc, Laurent, vu que tu as pris la parole tout à l'heure, si tu te sens de poser des questions ou des réactions, n'hésite surtout pas, ton micro est ouvert, comme l'a signalé évidemment Étienne en régie.
Je suis complètement d'accord avec Christian sur le besoin d'ouvrir ces codes.
Alors, ouais, je ne sais pas si on t'a bien entendu.
Oui, il y avait une erreur de micro branché, désolé.
Alors, donc Laurent va répéter, parce que le micro de Laurent n'était pas branché, vas-y.
Non, mais je disais que j'étais toujours d'accord. Oui, je suis toujours d'accord, même si vous ne m'avez pas entendu, je suis toujours d'accord avec Christian sur la nécessité d'avoir une visibilité sur le code qui pilote tout ça.
C'est plus que le code.
C'est plus que le code.
Dans le cas des modèles, c'est vraiment... Là, tu as un mélange entre... On a pris des données, on a utilisé du code pour faire fonctionner un réseau de neurones, et on a entraîné un réseau de neurones, c'est un résultat. Et c'est ce résultat qu'on devrait aussi avoir conservé ouvert, ainsi que les données d'entraînement, et bien sûr le code. C'est-à-dire, en fait, toutes les étapes, pour moi, elles devraient rester ouvertes.
Bon, en tout cas, ça... Je pense qu'on rajoutera ce sujet dans la liste des sujets à traiter dans l'émission, parce que c'est un sujet qui dépasse le cadre évidemment du logiciel libre ou autre, hein, et qui intéresse beaucoup de gens actuellement, à la fois des industriels, des politiques, et puis tout simplement les citoyens et les citoyennes. Donc on va, je pense, traiter ça un de ces jours. Un autre sujet, alors c'est pas forcément en lien direct avec OpenStreetMap, mais tu m'en as parlé, donc... dans les possibles sujets, ton ambition donc de créer un jeu complet, enfin le plus complet possible, de données disponibles en open data en France. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet ?
Alors, j'ai commencé ça cet été, parce que l'open data en France, ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Il y a les premières collectivités, Rennes entre autres, ça a été une des premières collectivités à publier des données en open data. Aujourd'hui, les données qui ont été publiées il y a 10 ans, je vous mets au défi de les trouver. Or, elles peuvent encore être utiles parce qu'on peut les comparer à des données d'aujourd'hui, on peut voir les évolutions dans le temps, on peut voir tout ça. Et il n'y a pas d'archivage, à ma connaissance, de l'open data. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, Web Archive, les archives du web, les archives d'Internet qui permettent de revenir sur...
Donc le site archive.org.
Archive.org, qui permet de revenir en arrière, de revoir à quoi ressemblait une page, un site, etc. C'est formidable. J'ai téléchargé par grande curiosité l'archive complète de tous les sites qui avaient été créés sur Geocities. Alors les anciens du web...
C'est quoi Geocities ?
Geocities, c'était... Un service qui permettait de se créer un site, de se créer sa home page, et dans les années 90-2000, et il y avait des centaines de milliers de sites sur Geocities. C'était beaucoup plus simple de créer un site sur Geocities que de se créer son propre site à l'époque. Les blogs n'existaient pas, tout ça n'existait pas. Et c'est passionnant de regarder ce contenu. Si vous êtes fan de GIF, alors là, vous allez avoir une overdose.
Alors des GIFs, d'images.
Les GIFs, les images animées.
Parce qu'à l'époque, c'était des images GIFs animées.
C'est ça.
Et puis les couleurs très...
Très flashy, ouais.
Voilà.
Aujourd'hui, on peut dire que c'est un petit peu kitsch, effectivement.
Mais aujourd'hui, c'est kitsch.
Mais c'est...
C'est à l'époque qui voulait ça.
Oui, mais on voit encore des sites de ce type-là. Mais voilà, donc... Les choses avancent tellement vite que dans le domaine du numérique, que si on prend pas le temps de se poser les questions et de s'occuper d'archiver certains trucs, ça disparaît. Ça disparaît très très vite, parce que le numérique disparaît plus facilement que le papier finalement. Le papier, à moins qu'on fasse une action vraiment pour le détruire, il ne se détruit pas. Alors que le numérique, si on ne fait pas d'action pour le garder sur un disque qui sera encore lisible, on ne peut plus le lire. Donc voilà, donc je me suis lancé dans ce projet-là que j'ai appelé Open Data Archive. Pour l'instant, j'archive 150 portails Open Data qui sont disponibles en France, dont data.gouv qui est le portail national. Et j'ai à peu près 30 000 jeux de données qui sont archivées et surtout l'archivage se fait tous les jours. Donc quand les données évoluent dans les jeux de données, je conserve les différentes versions.
Ah, tu conserves l'historique.
Voilà. D'accord.
Donc le site c'est opendatarchive.fr.
Alors pour l'instant.
Pour l'instant, c'est une
pas. Pour l'instant, il ressemble vraiment à rien. Parce que
n'allez pas le voir pour le moment.
Voilà, n'allez pas
Sauf
le voir.
Sauf si vous avez envie de voir une longue listing de fichiers et puis un fichier qui s'appelle Lisez-moi.
Voilà, c'est très 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 brut pour l'instant. Voilà. On commence par archiver les fichiers, ensuite et la description des fichiers, ce qui est très important. Et ensuite, on pourra faire des choses intéressantes avec ça. Mais
et ensuite, on rajoutera les gifs animés.
Non. Ah, on pourrait en mettre aussi. On pourrait en mettre.
Et du coup, salon est occupé par une quantité de disques durs incroyables, j'imagine.
Alors, ce n'est pas mon salon, c'est ma cave.
D'accord.
Et tout ça tourne dans mon futur chaton qui se trouve dans ma cave. Il y a eu des émissions sur les chatons, donc si vous n'avez pas écouté l'émission sur les chatons, vous allez pouvoir la réécouter. Et donc voilà, j'ai petit à petit accumulé du matériel. Et puis l'arrivée enfin de la fibre dans ma banlieue pas si lointaine de Paris m'a permis de passer à l'action.
Alors, je précise d'ailleurs en parlant des émissions passées, donc on a fait une émission sur les données publiques, donc le 2 octobre 2018 avec donc Tanguy Morlier de Regards Citoyens, Xavier Berne de Next Impact et Laurence Compara de la ville de Grenoble. Donc vous pourrez en apprendre plus là-dessus. Sur les chatons, donc c'est collectif d'hébergeurs qui proposent des services loyaux. On a fait deux émissions. Alors là, j'avoue que je n'ai pas les dates en tête, mais sur le site de l'April, vous trouverez facilement april.org ou sur causecommune.fm. Et c'est d'autant plus important que Framasoft a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre un terme à un certain nombre de services dans les années à venir pour effectivement se déframatiser. Oh là, est-ce que tu peux le faire
déframasoftiser le web.
Le web, voilà, exactement. Déframasoftiser Internet. Donc, c'est important.
Et on a exactement la même situation avec OpenStreetMap, où beaucoup de gens se disent « Oh, bah, je vais mettre le fond de carte d'OpenStreetMap, voilà. » Mais nous, nos serveurs, on ne peut pas les multiplier à l'infini. Et ça a un coût. Et donc, on pousse aussi, exactement comme Framasoft, hein, les gens qui ont besoin d'utiliser les données OpenStreetMap à déployer leur propre serveur pour être autonome. Les données et le code sont libres et gratuits. Par contre, les services, multiplier les machines, ça a un coût, ça nécessite de l'administration et tout ça, c'est géré bénévolement. On peut pas remplacer Google Maps, c'est pas possible pour ça.
Alors, je vais juste tout à l'heure, on parlait donc des modèles et des problématiques de droit et d'accès là-dessus. Sur le salon web de la radio, il y a Muman qui nous dit « C'est pareil pour la science, est-ce qu'un papier qui se prétend scientifique mais basé sur un algorithme des données pas publiques permet réellement de répéter l'expérience et de refaire la conclusion ? Selon moi, non. » Et il indique un lien qui est un peu long, donc j'aurais du mal à le lire, que ce soit lisible, mais on le mettra sur le site web en référence. Donc c'est Science, Open Access, Publication et Scientifique. Scientificité, il y a des tests aujourd'hui pour parler, voilà, donc c'est une réponse un commentaire de Muman sur le salon web. Alors, le temps file et puis Laurent Costi va ensuite nous parler de Bénéva Libre. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire des annonces peut-être autour d'OpenStreetMap ou d'autres choses parce que tu fais plein de choses?
Non, mais je vais rester sur OpenStreetMap. Je suis venu pour ça. Je peux revenir pour d'autres sujets.
Avec plaisir.
J'ai une annonce très importante. Le prochain State of the Map international aura lieu à Cape Town du 3 au 5 juillet 2020.
Donc en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, si Cape Town, si ça ne change pas de nom d'ici là. Et le prochain State of the Map France aura lieu, lui, à Nantes. Je n'ai pas encore les dates.
Mais ce sera en 2020.
Ça sera, en 2020, oui, parce que l'année se termine bientôt. Et puis, on est très heureux aussi en tant que local chapter, c'est-à-dire. Chapitre local français. On est très heureux d'accueillir un nouveau local chapter irlandais qui a signé son acte, etc., pendant ce week-end. Donc voilà, on a des amis irlandais en plus. Ça fait qu'OpenStreetMap devient et peut devenir, je pousse pour ça, peut devenir une forme de fédération petit à petit de chapitres locaux pour avoir une gouvernance un petit peu plus équilibrée et diverse. Voilà.
Un peu comme Wikipédia quelque part.
Franchement, je connais pas.
Ils ont des chapitres locaux. Je maîtrise pas non plus.
Mais je connais pas l'articulation.
D'accord.
Okay. Mais souvent, c'est une articulation qui a été à l'origine est souvent descendante, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une fondation internationale qui s'est créée, puis petit à petit, les chapitres locaux se sont créés. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut inverser la tendance quand il y a suffisamment de chapitres locaux pour que ça soit eux qui soient présents au conseil d'administration de la fondation internationale. Et voilà. Ça, c'est des histoires de gouvernance. C'est important, la gouvernance.
Ah, tout à fait. Alors, avant de conclure, une dernière question qui nous arrive sur le salon web. Alors, d'Aneuf. Donc, la question, c'est des suggestions d'outils pour visualiser, utiliser les données de transport public.
Oula, la liste est longue. Sur le wiki, il y a plein de choses. Bon, on a déjà une couche cartographique qui permet de mettre en valeur les données de transport public. Maintenant, le transport public, il y a le transport collectif, il y a le covoiturage, il y a tous les transports en libre service, les vélos, les voitures, les trottinettes. Voilà, la mobilité, c'est un grand, grand sujet. Et il y avait...
Il précise transport en commun.
Ouais, transport en commun. Je crois qu'on a un fonds de carte qui met en valeur les lignes de transport en commun. Il est accessible directement depuis le openstreetmap.org. Et puis sinon, après, il y a des outils plus spécialisés, mais là, il faut aller fouiller dans le wiki, on pourra mettre un lien.
Alors, c'est ce qu'on fera, on mettra un lien sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune, dans les pages avec les références. Donc, j'invite Aneuf à regarder dès ce soir ou demain matin, et on mettra le lien vers ce wiki, et il pourra aller fouiller et trouver l'information. Bah, en tout cas, écoute, Christian, bah, merci. Il me met deux liens, donc Aneuf me met deux liens. Oula, openptmap.org et openbusmap.org.
Oui, il y a aussi Jungle Bus qui est...
Jungle Bus de Noémie Lehubi.
Oui, voilà. Noémie, Florian, qui cherche à compléter les données bus, parce que c'est loin d'être complet, à compléter partout dans le monde les données de transport en commun de type bus.
Eh bien, écoute, merci Christian Kest. Donc, c'était Christian Kest d'OpenStreetMap France. Et puis, second intervenant, donc Laurent Costi, qui va intervenir. Alors, Laurent Costi, qui intervenait en tant qu'April, Fédération française des MJC, enfin, voilà, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Et, Aneuf nous dit « Ah, c'est exactement Jungle Bus que je cherchais ». Eh bien, ravi qu'on ait pu répondre à cette question et apporter la réponse. Eh bien, nous en... Donc, ben, Christian, je te souhaite une belle journée et on se reverra sans doute prochainement dans une émission libre à vous.
Puis je reste peut-être pour poser des questions.
Évidemment, hein. Tu peux rester. On va faire une pause musicale. On va écouter God is Gone par Big Albert et on se retrouve juste après. We'll be right back. venons d'écouter God is Gone par Big Albert, que je remercie parce que c'est un membre de l'April qui nous envoie régulièrement, enfin qui nous signale régulièrement ses musiques libres. Donc celle-ci est sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Et vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une présentation de Bénéva Libre, logiciel libre pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Alors notre invité, c'est Laurent Costi, vice-président de l'April, co-animateur du groupe de travail Libre Association de l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, donc des Maisons des Jeunes et de la Culture. Bonjour, bah, plutôt rebonjour Laurent,
oui, bonjour.
Intervenu dans le sujet.
Même si on m'a coupé mon micro à un moment donné quand même.
Voilà, mais c'est Étienne, il est facétieux en régie, mais en même temps il a à gérer ma fille qui est un peu dissipée. Alors d'abord, une petite question personnelle, une présentation tout simplement personnelle de ton parcours.
Bah, tu m'as déjà un petit peu présenté, oui. Hein, puisque professionnellement, donc je travaille à la Fédération française des MJC. Et puis, évidemment, je suis impliqué bénévolement au sein de l'April. Peut-être par rapport au projet, dire qu'à l'époque où l'idée du projet s'est montée, j'étais, dans le cadre plutôt en lien avec mon travail, président du CRAJEP. Donc comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, donc encore un bel acronyme, désolé, pour la faire clair, un peu plus clair pour les gens, ça regroupe à un échelon régional, et là en l'occurrence c'était la Bourgogne-Franche-Comté, des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Alors pour ceux qui les côtoient au quotidien, vous en connaissez sans doute, la Ligue de l'enseignement, l'UFCV, les CMEA, les Franca, etc., les foyers ruraux, les centres sociaux, voilà, toutes ces associations que vous côtoyez, dont vous connaissez pas forcément le nom, mais qui contribuent sur les territoires au quotidien pour améliorer la vie des gens.
Des associations très importantes. Donc Bénéva Libre, c'est un logiciel libre donc pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Bon, première question, évidemment, c'est quoi la valorisation du bénévolat et pourquoi des associations pratiquent cette valorisation? Et est-ce uniquement une valorisation comptable?
Alors, faut quand même savoir que toutes les associations ne sont pas d'accord sur la nécessité ou la volonté de valoriser le bénévolat. Alors, donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est, valoriser, finalement, c'est montrer tout ce que ça représente. On peut peut-être faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur OpenStreetMap. C'est vrai que un jour, on m'a dit « Ouais, il y a beaucoup de contributeurs à OpenStreetMap. » Ouais, ok, il y a beaucoup de contributeurs. Très bien, il y en a 1 million, 2 millions, enfin, j'en sais rien. Mais par contre, quand j'ai vu le site en direct live des contributions, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que ça représentait et de la force que ça avait derrière en termes de bénévolat, d'implication et de don de soi.
J'ai un autre exemple. Notre logiciel d'édition lourd, qui est développé en Java, etc., il y a eu une évaluation du temps pour le redévelopper, qu'il faudrait pour le redévelopper. Il faudrait 1 million d'heures pour redévelopper ce logiciel. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, l'idée de valorisation, c'est bien de faciliter le fait de montrer tout ça, quoi, parce qu'on s'en rend pas compte au quotidien. Voilà. C'est d'aider les associations à pouvoir montrer ça, les associations qui le souhaitent.
D'accord. Mais je suppose que des associations faisaient déjà de la valorisation du bénévolat, sans doute avec un outil interne ou autre. Donc pourquoi lancer Bénéva Libre? Quel était le besoin ou quel était le problème à résoudre?
Alors, je vais revenir peut-être juste sur la valorisation comptable, hein, puisque finalement, il y a quand même maintenant désormais une obligation de valoriser ça comptablement. Alors évidemment, encore une fois, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais de toute façon, maintenant, ça devient une obligation. Avant, c'était une recommandation pour les grosses structures, évidemment. Hein, c'est les commissaires aux comptes qui rappelaient cette règle-là, de recommandation jusqu'au 1er janvier 2019, je crois, où c'est passé comme une obligation. Et maintenant, les associations doivent justifier la raison du fait qu'elles ne le valorisent pas. Donc elles doivent expliquer pourquoi elles font pas ce choix-là. Et donc là, après, c'est des questions politiques, c'est des questions de discussion en interne au sein de l'association, mais on a bien une obligation réglementaire d'abord de valoriser. Et on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas d'abord pour les toutes petites associations, c'est d'abord la cible de Bénéva Libre, d'outils simples pour les bénévoles dans les structures. Alors il existait dans pas mal d'outils, alors qu'on appelle CRM, alors en anglais, tu vas peut-être m'aider, Fred.
Customer Relationship Management, donc c'est de la relation client.
Voilà, alors PGI en français, progiciel de gestion.
Alors, progiciel de gestion intégrée. Donc voilà. Un logiciel qui fait plein de choses.
Voilà, qui peut à la fois avoir la liste des adhérents, leur date de renouvellement de cotisation, etc. Donc il y a des choses intégrées comme ça. On en connaît, il y en a plein dans le livre, hein, qui peuvent être très très utiles aux associations. Je vais pas les citer là parce que sinon je vais en oublier, mais on essaiera de les mettre dans la page de l'émission après. Mais ça demandait déjà des compétences et puis une certaine pratique. Donc c'est vrai qu'on a voulu d'abord cibler les toutes petites structures associatives qui n'ont pas de salariés ou un ou deux salariés, quoi, qui n'ont pas les compétences techniques pour installer ou utiliser quelque chose d'assez avancé sur le plan numérique. Voilà, donc voilà. C'était un peu ça l'idée initiale.
D'accord. Alors sur le salon web, il y a une question. Est-ce qu'il y a un site qui explique cette obligation, publication au journal officiel ?
Alors peut-être sur la page des... bonne question.
Alors, on va chercher et on mettra sur la page de référence parce que c'est... Évidemment, bon, ça doit être sans doute une publication au journal officiel.
Oui,
ou
il y a eu quelque chose comme ça. Je l'ai eu en tête à un moment donné, mais on essaiera de le remettre.
C'est pas grave. Ouais. Alors, donc on a compris l'idée de ce projet-là. Donc, maintenant, c'est quoi Bénévalib ? Comment ça fonctionne ? C'est un site web ? C'est une application sur téléphone mobile ? N'importe qui peut l'installer ? C'est un logiciel libre ?
Alors, bien sûr, c'est un logiciel libre. Pardon, c'était une des conditions que s'était donné le CRAJEP, hein, puisque c'est finalement le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bourgogne-Franche-Comté qui a finalement profité des effets de la fusion des deux régions de Bourgogne et Franche-Comté, parce qu'on avait demandé effectivement une subvention à l'époque au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour refaire le site internet, puisqu'il fallait afficher maintenant une fusion des régions. Bon, finalement, le site, on l'a fait autrement et on s'est dit, bah tiens, finalement, par rapport à ce projet-là dont on avait déjà l'idée, est-ce que ce serait pas utile d'utiliser cette subvention-là pour ce développement-là ? Et donc, du coup, on a fait le choix de faire développer un logiciel libre qui est, alors pour les techniciens, moi je n'en suis pas, mais qui est développé en Python Django, avec le framework Django.
Les aspects techniques, peu importe.
Mais ça se traduit par le fait que finalement, c'est un site internet auquel on peut accéder par un téléphone portable, puisque, encore une fois, maintenant, les nouveaux sites, ils s'adaptent très facilement au téléphone, donc on peut à la fois le consulter...
Ils sont responsifs, comme on dit, de
exactement,
nos jours.
Responsive, voilà. Alors je ne vais pas dire le terme, pourquoi... Voilà.
Alors, je ne sais pas comment ça se traduit en français.
Adaptable, voilà. On va dire ça. Donc voilà, on peut l'utiliser à la fois par le biais d'un téléphone. Hein, voilà, je suis un bénévole, je viens de consacrer 2 heures au stand de l'association sur le forum des associations. Hop, je prends mon téléphone portable, je dis tel jour, j'ai passé 2 heures pour telle association. Voilà, il faut s'être créé un compte, mais c'est extrêmement rapide. Il y a besoin d'une adresse mail. Alors, soit anonyme, soit très clairement avec votre nom, prénom. Mais encore une fois, c'est assez simple dans l'utilisation. Donc, c'est bien un site, enfin, c'est bien un logiciel libre pour lequel, pour l'instant, une seule instance, à ma connaissance, a été mise sur un serveur de la SIC qui a développé le logiciel pour le CRAJEP.
La SIC,
alors là, du coup, c'est Société Collective d'Intérêt...
Coopérative d'Intérêt Collectif, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr.
D'Intérêt Collectif, voilà, c'est ça. Donc, qui s'appelle CLIS21, qui a développé pour le...
Qui est dans le Nord,
voilà, qui développe depuis longtemps déjà des logiciels libres. Et donc, pour l'instant, une seule instance est installée sur le serveur de cette SIC. Vous pouvez accéder à cette instance-là si vous n'avez pas les compétences pour installer votre propre instance sur votre propre serveur, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Mais après, l'idée a bien été pensée comme la logique chaton dont on a évoqué tout à l'heure le nom, hein. L'idée, c'est que chacun puisse après administrer ses propres services, y mettre ses propres règles en fonction de ce qu'elle veut faire de ce bénévolat. Voilà, puisqu'encore une fois, c'est pas clair pour toutes. C'est pas clair pour toutes les associations que de savoir quoi faire de ce bénévolat et de cette valorisation.
Alors, c'est important donc de comprendre qu'il y a deux parties, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, hein, qu'il y a deux parties dans Bénévalibre. Il y a la partie client, logiciel client, donc accessible soit sur un ordinateur classique, soit sur téléphone mobile. Et il y a le serveur Bénévalibre qui va récupérer les données. Donc, pour l'instant, il y a une seule instance qui est l'instance quelque part de démo, test, etc. Mais évidemment, toute structure, toute association peut installer, prendre la partie serveur, l'installer sur ses machines ou en tout cas demander à soit ses bénévoles, soit son prestataire de le faire pour, ce qui est important, évidemment, avoir une maîtrise des données. Parce qu'évidemment, les données sont fondamentales. Donc, il y a ces deux parties-là. Et quand tu parlais donc du collectif Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs qui propose des services libres et loyaux, on peut très bien imaginer effectivement que dans ce collectif, certaines structures proposent un hébergement d'un serveur Bénévalibre. et qui sera utilisé par exemple par des structures locales, associatives, avec une confiance dans les données, parce que ce qui est important dans les chatons, c'est évidemment qu'il y a un engagement sur le respect de l'intégrité et de la sécurité des données personnelles des personnes qui utilisent le service du chaton.
Tout à fait. Et du coup, ça intéresse vraiment les fédérations d'éducation populaire, parce que finalement, c'est un nouveau service qu'elle peut offrir assez facilement à tous ses membres. Donc du coup, nous, la Fédération française des MJC, la Fédération française des MJC vient de demander un devis pour avoir une instance propre pour l'ensemble de son réseau. Donc on va voir ce que ça donne, on n'aura peut-être pas les moyens, on va voir si c'est utile pour l'instant. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment des questions qu'on se pose, nous, en tant que fédération d'association.
D'accord. Quelles sont les différentes structures qui sont, finalement, tu en as cité quelques-unes aujourd'hui, mais voilà, quelles sont les structures partenaires de ce projet ?
Alors, initialement,
de ce projet NES.
Oui, alors tout à fait. Initialement, c'est bien le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a fait confiance au CRAJEP, avec lequel elle travaille régulièrement sur les politiques jeunesse, les politiques associatives à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il s'avère que dans les relations qu'on avait, il y a une relation de confiance qui a permis de consacrer une partie d'une subvention pour Bénévalibre. Alors ça a permis d'avoir finalement un levier, et du coup d'aller convaincre aussi la Fondation du Crédit Coopératif, avec laquelle l'April avait déjà travaillé par le passé, pour faire une clé avec des logiciels libres et puis un livret.
Et un guide de libre association que tu avais piloté.
Voilà, aussi à l'époque. Et du coup, c'est vrai que la Fondation du Crédit Coopératif a très vite aussi validé son soutien. C'est vrai que ça s'est fait très très rapidement sur la fin de l'année 2018, ce qui nous a permis de rassembler 20 000 euros pour un projet de développement pour Bénévalibre. J'annonce les coûts, c'est très clair, tout en sachant que c'était pas forcément complètement suffisant pour une telle application. Mais en tout cas, voilà, on a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs, et puis tout le monde est tombé d'accord pour faire converger ça. Peut-être le point important là-dedans, au-delà même du logiciel produit, c'est finalement l'intérêt d'avoir mis autour de la table des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes perceptions de ce que pouvait être un logiciel, alors un logiciel libre en particulier, mais un logiciel en tout cas, et puis des conceptions de valorisation du bénévolat très très différentes dans des fédérations d'éducation populaire nées après la guerre, par exemple, et puis des associations comme Framasoft, qui étaient aussi autour de la table, ou l'April, qui ont une pratique de ces questions-là, avec la question de l'anonymat, avec la question de l'importance de sécuriser les données. C'était extrêmement important de confronter toutes ces personnes-là et de les mettre autour de la table. Voilà. Et puis ça a fait aboutir un logiciel générique. On n'est pas rentré dans des choses extrêmement pointues qui répondaient à un besoin précis. On est resté très très générique, très simple pour le bénévole. Lambda, c'est un peu péjoratif, mais pour tout bénévole, quoi.
D'accord. On va indiquer quand même le site bénévalibre.org,
tout à fait,
sur lequel on peut tester, faire connaître.
Alors le site, oui, c'est le site qui présente le projet, et l'application, c'est app.bénévalibre.org.
Je suppose que sur bénévalibre.org, il y a un lien vers l'application.
C'est sur la première page. Vous pouvez accéder.
Voilà, mais effectivement, n'hésitez pas à le tester, à le faire connaître, à le diffuser, et puis c'est qu'une première version. C'est un logiciel libre, donc n'importe quelle personne ou structure peut le faire évoluer. Donc n'hésitez surtout pas à le tester, à le faire connaître. Peut-être un dernier mot
C'est un peu la question qu'on se pose. Alors, il y a plein de choses qu'on a mis de côté dans la V1, justement pour garder le logiciel le plus simple, le plus accessible possible. Donc on va passer en revue tous ces points qu'on a mis de côté, tout en sachant qu'on ne souhaite pas non plus, entre guillemets, marcher sur les plates-bandes des logiciels dont on parlait tout à l'heure, qui ont déjà travaillé sur ces questions-là. Pour des structures un peu plus importantes. Donc la question, ce sera peut-être comment articuler finalement Bénévalibre avec ces logiciels qui existent déjà. Ça, c'est plutôt pertinent pour nous. Toutes les options qu'on n'avait pas mises, est-ce qu'il faut intégrer le temps de trajet, les calculs de temps de trajet, les notes de frais, mais on rentrerait vraiment dans un logiciel un peu plus conséquent, et c'est pas forcément l'objet de Bénévalibre. Donc après, le groupe de travail va réfléchir aux besoins non pourvus pour les associations. Il y en a plus beaucoup qui ne sont pas pourvus en logiciel libre. Mais reste peut-être toute la question de la paye. Alors, il faudra évidemment qu'on explore d'abord tout ce qui existe. Encore une fois, c'est pas idée de refaire la roue, de réinventer la roue. Mais il pourrait y avoir quelque chose autour de ça, quoi. Mais c'est un projet un peu plus ambitieux, là, qui va demander des moyens. Et puis surtout un suivi, parce qu'au quotidien, on sait très bien que la question sociale, elle évolue, et qu'il faut pouvoir avoir des juristes et puis des gens autour du projet au quotidien, quoi. Voilà.
Écoute, merci Laurent. Donc, bénévalibre.org, app, avec deux P. www.benevalibre.org et sur le site de l'APRI, vous avez le groupe de travail Libre Association qui est un groupe ouvert à toute personne. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'était Laurent Costi de l'APRI et de la Fédération Française des MJC. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Alors, on approche de la fin de l'émission, nous allons faire des annonces. Alors, nous allons dans la partie annonce. Malheureusement, on va commencer par une annonce très triste. Nous avons appris aujourd'hui, donc, par un courrier de Pierre-Yves Gosset, donc, le décès de Jean-Yves Royer à l'âge de 81 ans. Donc, je reprends une partie du courriel de Pierre-Yves qui disait que Jean-Yves Royer donc, était un militant du libre, d'une constance rare dans sa militance, ses engagements, son humilité et son éthique. Il a notamment été une personne clé pour les associations comme l'ALDIL, donc un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres sur la région de Lyon, ou la Mouette, dont on a déjà parlé dans l'émission autour de la bureautique libre. Et donc Jean-Yves était un infatigable promoteur de OpenOffice, puis de LibreOffice et des formats ouverts. Et cela jusqu'en prison où il formait bénévolement des détenus à l'informatique. Il était aussi un membre actif du réseau des espaces publics numériques du Lyonnais et un bénévole régulier dans l'organisation des journées du logiciel libre de Lyon. C'était quelqu'un en plus d'adorable que nous avons eu le plaisir et la chance de côtoyer. Donc évidemment, nos condoléances et nos pensées vont vers sa famille et ses amis. Et sur il y a un billet de Loïc Gervais qui donne un peu plus d'informations sur Jean-Yves Royer. On mettra la référence sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. Donc sans transition, comme on dit dans ces cas-là, réponse au quiz de la deuxième question, non, de la première question. Alors je ne me souviens même plus. Ah mais en fait je me suis trompé tout à l'heure. J'avais oublié de préciser. C'était quoi la première question? J'ai un trou de mémoire là. Alors là je suis complètement. Ah oui, je vous demandais quel était le projet dont on a parlé la semaine dernière, le concours mondial et qui se poursuit jusqu'au 30 septembre 2019. Ce concours, c'est Wiki Loves Monuments. Donc, vous retrouvez les références sur le site de l'April. Et vous pouvez proposer des photos de monuments donc jusqu'au 30 septembre 2019. Excusez-moi, c'est pour cet oubli. Dans l'actualité, donc là, ça va aller assez rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, il y a le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui commence aujourd'hui au Sénat. Nous en avons parlé dans l'émission du 17 septembre 2019. Nous avons mis en ligne une actualité avec les amendements et un certain nombre d'informations concernant ce projet de loi, donc je vous invite à le consulter. Il y a des appels à conférence, mais je les passerai la semaine prochaine parce que sinon je n'arriverai pas à tenir sur les événements. Simplement, vous signalez quand même que nos amis de Next Impact, Xavier Berne qui intervient régulièrement dans l'émission, font une rencontre le 27 septembre 2019 à Paris. Alors, l'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Isabella Vanni, Pascal Arnoux, Myriam Criquet, Christian Kest, Laurent Costi, aux manettes à la régie, Étienne Gonu, aidé de ma fille. Vous retrouverez sur le site april.org les références pour l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine aura lieu en direct le 1er octobre 2019. Nous parlerons de logiciels libres audio et la musique assistée par ordinateur. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.